Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Shérif, Fabien, Julien, Marie-Emmanuel, Niastier, Ouloum, Simona, Taher. Leur vie a pris fin un 5 novembre, écrasée par les décombres de leur immeuble au 65 rue d'Aubagne. Ces huit-là sont devenus, malgré eux, un symbole. Celui des victimes de la violence sociale qui pèse sur les plus pauvres, confinés dans des logements insalubres et indignes. Mais leur portrait, brandi depuis le drame, raconte aussi une autre histoire. Certains d'entre eux venaient d'Algérie, des Comores, d'Italie, du Pérou, du Sénégal, de Tunisie. De tout âge et de toutes origines, ils sont le vrai visage de Marseille. Et les marches, en leur mémoire, marches blanches, marches de la colère, bientôt marches pour le droit à la ville, expriment la colère, mais aussi l'espoir, celui d'obtenir justice, vérité et dignité. Avec nous, dans cette émission spéciale de la Grande Tchatch, l'émission politique du mensuel Le Ravis sur Radio Grenouille, quatre invités pour parler du logement indigne à Marseille. Fatih Bouaroua, vous êtes membre du collectif du 5 novembre et coprésident de la communauté Emmaüs Pointe Rouge. Samia Chabani, sociologue, fondatrice de l'association Ancrage au nord de Marseille, vous siégez dans le comité présidentiel des villes mis en place par Emmanuel Macron, consacré aux banlieues et aux quartiers populaires. Florent Houdemont, après avoir dirigé en Provence les Compagnons Bâtisseurs, vous êtes désormais directeur de l'agence régionale PACA de la Fondation Abbé Pierre. Carole Lenoble, architecte, enseignante à l'INSAM, l'école d'architecture marseillaise. Vous êtes membre de l'association Un Centre-Ville pour Tous. Un dernier mot avant de vous entendre, rédacteur en chef du mensuel Le Ravis, je présente habituellement cette émission avec Rafi Amal. Mais une fois n'est pas coutume, il n'a pas pu honorer le rendez-vous. Car il est l'un des 1400 Marseillais évacués par mesure de précaution depuis le 5 novembre dans un total de 142 immeubles. Cette émission leur est aussi dédicacée. Alors peut-être pour démarrer, le 5 novembre, donc date qui va rester hélas dans les mémoires, comment on en arrive là en fait ? Peut-être regarder un petit peu en arrière avant de se projeter ensemble. Comment on arrive à un pareil drame ? Fatih,
je vais peut-être prendre la parole. D'abord, tout simplement parce que nous avons certes un arsenal juridique et nous avons des polices, les polices du maire, etc., qui n'ont jamais fonctionné. Un exemple tout simple. Il y avait, en 2016, à peine 400 plaintes sur les immeubles de la région et 84 arrêtés ont été pris. Alors que là, en quelques jours, nous en avons eu pratiquement une centaine d'arrêtés qui pourraient être pris et 250 ou 300 signalements et visites. Et donc, on voit bien qu'il y a un tel écart entre ces chiffres-là qu'on comprend que, en réalité, se plaindre de son logement, c'était plus nécessaire ou possible. Et que des drames, il y en a eu à Marseille et ailleurs, des immeubles qui se sont effondrés. Je rappelle dans les années 70 et puis dans les années 80, les immeubles qui s'effondraient dans le quartier Belzunce. Et chaque fois, il y a eu des blessés, des morts, sans jamais une telle émotion. Et pourtant, on connaissait la situation. Il suffit de lever le nez. Il n'y a pas besoin de diagnostics très lourds. Certes, derrière, il faut les diagnostics. Vous savez, essayez, jusqu'à ces jours-ci, il fallait appeler le service d'hygiène. Fallait attendre je ne sais pas combien de temps et combien de questions pour pouvoir avoir une visite. Je rappelle qu'il y a moins de 2 ans, la Fondation Abbé Pierre avait dénoncé le fait que le service d'hygiène, il n'y avait plus personne. Que l'agence régionale de santé elle-même, qui est d'ailleurs responsable, n'a à aucun moment réellement réagi à l'époque. Si, ils avaient fini par embaucher très vite, devant les effets médiatiques, 4 personnes qui n'étaient finalement pas tout à fait formées, puisqu'ils n'étaient même pas agents de salubrité publique. Donc on voit bien d'où ça vient. C'est tout se laisser aller. Alors il y a 2 thèses, je m'excuse de prendre trop longtemps la parole. La première thèse, c'est une volonté délibérée, pas de tuer les gens, mais de pourrir la situation pour ensuite pouvoir reprendre. Et c'est la logique de la reconquête du centre-ville qui était chère déjà à Gaston Defferre. La deuxième thèse, c'est tout simplement le fait que nous sommes passés entre les années 70 et les années 2000 au logement qui était un bien de première nécessité, avec une loi qui cadrait bien les choses, qui était la loi de 48 sur les loyers, très vite à un logement qui est devenu un bien de consommation courante, avec des textes de loi qui commençaient à détricoter des textes, même ceux qu'on avait fait dans les années 70 pour résorber l'habitat insalubre. Et donc, et début des années 2000, avec des changements chaque fois de texte, les seuls qui sont hors de ces textes-là, qui détricotaient la loi, c'est ceux de la loi Duflot. Mais jusque-là, on a transformé enfin le logement en bien spéculatif. Et on a privatisé. Et même ces jours-ci, il n'y a pas très longtemps, l'État et le législateur préparaient des lois encore, la loi notamment Elan, de privatisation. Le logement HLM n'allait plus être celui qu'il était. Et il n'était déjà plus ce qu'il était, puisque aujourd'hui, pour rentrer dans un logement HLM, il ne faut pas être très pauvre.
Carole Houdemont. Carole Lenoble, pardon. J'ai mélangé vos deux noms, excusez-moi. Carole Lenoble, pour un centre-ville pour tous, créé en 2000, et qui alerte depuis longtemps aussi sur la question du logement indigne à Marseille. On savait donc.
Oui, donc ça fait 20 ans qu'un centre-ville pour tous est en lutte pour demander un habitat digne en centre-ville, qui pourrait passer par le rachat massif d'immeubles délabrés, de biens vacants, et une aide aux copropriétés dégradées, ce qui a donc été très peu fait dans le centre-ville depuis 20 ans. Et pour continuer dans le sens de ce que vient de dire Fatih, c'est-à-dire qu'il y a la réelle défaillance des pouvoirs publics sur cette question-là, cette défaillance s'inscrit dans le cadre d'un mépris total pour les habitants du centre-ville, qui sont une population, en particulier dans ce quartier, une population pauvre, qui est pour 80% éligible au logement très social, alors qu'on a uniquement 4% de logement social dans ce secteur. Enfin, on est passé de 5% en 2010 à 4% aujourd'hui. Donc, rien que ces chiffres montrent en eux-mêmes la réelle volonté de vouloir chasser certaines populations très modestes du centre-ville.
Une autre réaction, Florent Houdemont.
Oui,
sur le constat, sur le caractère attendu peut-être, hélas, de ce drame.
Oui, aucune surprise, je pense, pour tout le monde autour de la table, et puis je pense pour l'essentiel des Marseillais, aucune surprise, parce que je suis d'accord avec Fatih, il suffit de lever les yeux pour voir l'état lamentable du parc à Marseille. Des petits éléments de contexte, c'est un constat qui est quand même national. Il faut rappeler qu'en France, 4 millions de mal logés, la Fondation Abbé Pierre le rappelle, on ne parle pas de gens qui ont un problématique de confort, qui aimeraient mieux, qui aimeraient avoir un bout de jardin, ou un logement plus proche de leur travail, c'est des questions légitimes. Hein. Plus de 10 millions, c'est un Français sur 5 qui est fragile dans son logement. Mais quand on parle de gens mal logés, on parle de gens qui habitent dans des taudis ou qui sont à la rue. Aujourd'hui, les réalités, c'est celle-ci. C'est les situations de péril dramatiques, et on l'a vu là, malheureusement, à Aubagne. C'est le logement insalubre. Il vous tue pas tout de suite, il vous tue à petit feu. C'est ça que ça veut dire, un logement insalubre. C'est un logement qui vous rend malade, et gravement malade, qui est atteint à votre santé. Donc le constat, il est là, c'est 4 millions de mal logés en France, et donc le phénomène, il est national. C'est vrai qu'à Marseille, il a pris des proportions, mais vraiment inédites, avec plein d'explications. Moi, je suis d'accord, c'est avant tout un manque de stratégie depuis des années de production de logement social. On est une ville, on le sait, il y a une population qui est en précarité, un taux de pauvreté important, et du coup, le choix des gens faute de logement social, c'est quoi? C'est contraint d'accepter, mais des conditions indignes. Contraint d'aller accepter le chantage de propriétaires qui, quelque part, avec une clientèle captive, ne voient aucun intérêt d'aller investir dans leur logement, puisque de toute façon, ils trouveront des gens qui, c'est la rue ou le taudis, qui seront prêts à payer très cher, cautionnés quand même, il faut le rappeler souvent, par les APL, et on se félicite des nouvelles mesures de la loi Allure, mais il faut encore qu'elles soient appliquées sur la non-décence. Mais après, c'est sur l'ensemble du logement indigne. Donc c'est cette question avant tout du manque de stratégie de production de logement social et très social. Moi, je vais dans le même sens. Hein. C'est les chiffres de la métropole l'année dernière. 74% des demandeurs de logement social sur la métropole étaient éligibles au PLAI. Et qu'est-ce qu'on a produit l'année dernière? 16% de PLAI dans le logement social, qu'on construit déjà pas assez, avec des communes carencées sur la métropole en SRU, et avec même Marseille qui n'atteint pas les 25%.
SRU, c'est la loi?
La loi qui contraint les maires à produire sur les agglomérations 25% de logement social. Et donc ici, à Marseille, on a 21%. Autour de Marseille, des tas de maires continuent à refuser d'en produire. Et quand on regarde à l'intérieur du logement social, on sait que ce qu'il faudrait, c'est du logement très social, et on ne le trouve pas. Donc voilà, déjà c'est le premier phénomène. Le deuxième, je suis d'accord, les outils du coercitif, Fatih l'a dit. Les pouvoirs de police du maire en matière de péril, les pouvoirs de police du préfet. Le rapport Nicole, il y a la Fondation Abbé Pierre, mais le rapport Nicole le dénonçait aussi il y a 2 ans, réclamant des moyens. On a eu les moyens, les gens, on apprend qu'ils ne sont pas formés. Et on se retrouve dans cette situation, mais complètement invraisemblable. Donc, la lutte contre les marchands de sommeil. On avait un procureur qui était, mais vraiment partant, avait mis en place avec le GOLI, le groupement opérationnel de lutte contre l'habitat indigne, une vraie stratégie pour s'attaquer aux marchands de sommeil. C'est en sommeil depuis 3-4 ans. Le rapport Nicole en 2015 s'étonnait déjà que la dynamique soit en train de s'essouffler et alerter sur ce sujet. Donc ça, c'est pour les outils coercitifs. Et après, on a des outils incitatifs. Aider les gens, les copropriétés, à améliorer leurs biens. Et là aussi, il y a des choses qui sont complètement invraisemblables, qui sont nationales, mais ici prennent des mesures incroyables. C'est par exemple un opérateur qui veut accompagner des gens à améliorer leur logement. Il sera payé le même coût pour aider quelqu'un à changer une baignoire pour mettre une douche. Donc, ce qui est quand même pas très compliqué et marche d'ailleurs assez bien ici, hein, sur l'adaptation au vieillissement. Il faut le faire. Mais quand c'est sur la lutte contre l'habitat indigne, on parle de travaux à 60, 70 000 euros avec des gens en grande précarité. Il faut des moyens d'accompagnement à la hauteur des habitants. Et ça, on constate que c'est absolument pas le cas. L'année dernière, 129 logements indignes, enfin logements très dégradés, subventionnés par l'Agence nationale de l'habitat sur la métropole, mais avec des crédits mais largement sous-consommés. Et sur les copropriétés, c'est le cas. Et là, il faut rappeler aux auditeurs d'ailleurs, hein, quand vous achetez un logement, un appartement, attention, vous achetez aussi un bout de l'immeuble. Et là, votre responsabilité, elle sera engagée. Donc il faut aussi faire de la pédagogie, rappeler aux gens que quand on achète un appart, on achète un bout de l'immeuble. Et on va être responsable de l'entièreté de l'immeuble avec les autres copropriétaires. Et ça encore, les pouvoirs publics, ils ne sont pas à la hauteur depuis des décennies, partout en France, mais dans des proportions invraisemblables sur Marseille.
Samia Chabani, sur les causes, alors on parlait d'un constat national, mais est-ce qu'il y a un constat local à faire en particulier sur le logement indigne, sur cette ville ?
Ce qui est sûr, c'est que le constat, il a été fait il y a longtemps. Moi, j'ai envie de revenir un peu en perspective historique, puisque vous nous invitez à revisiter un peu l'histoire. Déjà, depuis la Deuxième Guerre mondiale, un certain nombre d'historiens, de sociologues ont fait un relevé assez précis des quartiers, des bidonvilles, des camps, il y a toute une série de, on va dire, de formes de logements insalubres, indécents et on ne peut pas qualifier vraiment de logement, mais en tout cas qui était une forme d'habitat qui existait à Marseille dès la Deuxième Guerre mondiale et qui ont fait l'objet finalement d'un recensement, d'un inventaire assez précis avec une intention justement d'alerter les pouvoirs publics. Le constat qu'on partage aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque en tout cas de prise de conscience de l'état d'urgence de Marseille. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté d'être membre du Conseil présidentiel des villes, à la fois pour alerter sur la situation d'indigence de Marseille, parce que pour moi, il ne faut plus parler ni de pauvreté, ni d'indécence, mais d'indigence. Vraiment, il y a une situation qui ne concerne pas que le centre-ville, qui concerne aussi les quartiers nord, qui est dramatique, qui mobilise une partie de nos élus, mais qui les a aussi démobilisés, parce qu'effectivement, raccrocher le plan Borloo sans perspective autre que la loi Elan, ça me semblait dès le départ une impasse. En tout cas, un mauvais signal donné à un territoire comme le nôtre, où il y a déjà un manque d'animation territoriale de ces questions. Hein, qui est assez profond. Donc, ce que nous donne à voir, en fait, non seulement les archives, puisque c'est ce qui nous intéresse à Ancrage, cette mise en perspective de l'histoire du logement social à Marseille, c'est que ce caractère temporaire du logement, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, il y a toute une série de maillons de la chaîne du logement social qui sont considérés comme de l'habitat temporaire, qui sont insuffisamment pris en compte, insuffisamment soutenus, insuffisamment... et ce n'est pas que l'habitat dont on évoque de la rue d'Aubagne, c'est aussi la prise en charge de situations d'urgence comme à l'UHU ou dans les CHRS, qui constituent aussi souvent des situations de logement très, très, très précaires. C'est aussi tout simplement un manque d'anticipation, et là il est national effectivement, sur... voilà, l'habitat de personnes qu'on a considérées longtemps comme des personnes en situation de transit. Et là, effectivement, je fais référence à toute une partie de l'immigration de travail des années 60 et 70, dont on a longtemps considéré qu'elles allaient repartir. Donc on voit là vraiment un manque d'anticipation, un manque d'engagement politique, un manque de prise en compte sérieuse de ces questions de logement social qui, aujourd'hui, continuent de constituer le paysage marseillais.
Alors, il y a eu des réactions assez vives, hein, et on peut le comprendre, questionnant justement la responsabilité politique. Et on a entendu dans les manifestations le maire mis en cause, Gaudin démission, ce type de mot d'ordre, qui n'est pas très habituel à Marseille. Un mot là-dessus, sur la responsabilité des uns et des autres.
Je sais pas, il y a d'abord un procureur qui a été très vite...
Thibault Roy.
Oui, pardon. Il y a un procureur qui a tout de suite été nommé pour pouvoir instruire. Donc, il y a visiblement un certain nombre de responsabilités très directes et pénales qui pourraient être à côté des responsabilités politiques. Il y a eu, et tout le monde le sait, des perquisitions dans un des organismes, une des sociétés d'économie mixte de la ville, qui s'occupe d'ailleurs de la résorption et notamment du plan d'éradication de l'habitat indigne qui a fait long feu. Et aussi à la mairie. D'autres responsabilités politiques sont aussi à vérifier. Par exemple, les mesures prises, les expertises, les dossiers déjà reçus. Je rappelle que votre confrère... Benoît Gilles avait...
Mars Actu.
De Mars Actu, avait interpellé le maire il y a pas très longtemps, je crois qu'il y a 2 ans ou 3, sur cet immeuble-là déjà, dans lequel on voit bien que le mépris dont parlait ma collègue tout à l'heure de Centre-Ville pour tous, c'est effectivement un des éléments qui montre bien l'écart entre le rapport à la population et ce mépris fait en sorte qu'il y a des erreurs manifestes de responsabilité et de responsabilité en tant que police du maire, je parlais tout à l'heure des polices, et de réaction. Et donc là-dessus, il est clair que la responsabilité directe est une responsabilité du maire parce qu'il a eu l'information. Et deuxièmement, parce qu'ils n'ont pas réagi et qu'il y a eu des morts. Donc, est-ce que c'est aussi direct que ça? C'est à la justice aujourd'hui d'en parler. Nous avons à relever les responsabilités politiques. Il y a des responsabilités d'ensemble. Le sens même des politiques d'État aujourd'hui pose problème. Le fait qu'il n'y ait plus de logement social, la Fondation Abbé Pierre fait suffisamment de rapports depuis très longtemps pour marquer le fait que le logement social, il en faut, à prix accessible. Dire ça, c'est quand même fou, aujourd'hui, de dire ça. On ne peut pas y accéder. Et en plus, on est en train de le vendre. Il va falloir en vendre 40 000 par an au moment où on ne peut pas loger les gens. Et dernier point, il va y avoir aussi des responsabilités d'État. L'État, où est-il ? Il ne peut pas juste dire « je suis là pour aider la ville ». Que fait-il ? C'est la responsabilité de la santé publique relève du ministère de la Santé et de l'État. Il délègue, les gens ne le savent pas, mais c'est qu'une délégation, la question de la santé publique. Les services d'hygiène sont des services délégués de l'État vers les villes. D'ailleurs, toutes les villes n'en ont pas. Je crois que c'est 111 villes en France qui en ont seulement. Et d'ailleurs, aussi, c'est l'État qui paye, qui donne un budget pour ça. Mais alors là, c'est pour ça que ce qui est complètement dingue, c'est d'apprendre cette histoire de notes de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, du ministère de la Santé, qui critique, qui met en cause. Mais quand on délègue quelque chose, celui qui est responsable, c'est celui qui a mandaté, c'est pas celui qui n'a pas fait parce qu'il prétend qu'il n'a pas de moyens. Donc il y a toute une série de responsabilités. Les autres collectivités locales. Je rappelle que le conseil départemental a aussi des responsabilités puisqu'il a la fonction d'accompagner la question du logement des plus démunis. Il y a un plan dans chaque département. Il y a... Où est-il ? On ne l'a pas trop entendu parler.
Florent, ouais, non, sur les questions Florent, des responsabilités.
Non, mais je complète. Moi, je suis d'accord. Les responsabilités, l'enquête en cours montrera est-ce qu'elle relève du pénal ou pas et qui va être exactement visée. Les responsabilités politiques, moi, je vais dans le sens de Fatih. Je complète aussi avec la métropole, qui aujourd'hui est la collectivité compétente en matière de programmation et de plan local de l'habitat. Et là-dessus, on les trouve encore très timides sur la question de l'habitat indigne. Je rappelle que la région par la loi NOTRe, a aussi des responsabilités et doit pouvoir mettre les moyens. Aujourd'hui, il y a des moyens mis à disposition par la région, plutôt en baisse d'ailleurs, en matière d'habitat privé, et qui clairement sont mal adaptés à la question de la lutte contre l'habitat indigne. Et pour aller dans le sens sur le département et dans le sens de ce qui a été dit avant sur la question des bidonvilles, ils existent encore aussi à Marseille. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a encore des bidonvilles et des grands squats, sans compter ces copros dégradés, le parc Corot, le parc Calisté. Il faut aller voir au bâtiment A ou C à Corot, etc., de ces bidonvilles verticaux qui existent au jour d'aujourd'hui. Et là, par exemple, le département a l'obligation normalement de prévoir dans sa stratégie une stratégie de résorption des bidonvilles. Et aujourd'hui, la préfecture essaye de faire des choses timidement, le département est absent. Donc aujourd'hui, c'est l'ensemble des pouvoirs publics, encore une fois, qui ne sont pas à la hauteur sur ces enjeux, mais d'importance, alors partout en France, mais encore une fois, ici, dans des proportions mais hallucinantes.
Carole Lenoble, le « Je ne regrette rien » de Jean-Claude Gaudin, c'est la faute de la pluie, alors, pas tout à fait ça.
Alors évidemment, ça n'a fait que attiser la colère des habitants et des associations. Ça montre encore une fois le mépris et le détachement des pouvoirs publics par rapport à cette question. Et moi, j'aimerais donner, pour parler de cette politique de l'habitat, ce manque de volonté de résorption de l'habitat indigne, je voudrais donner un chiffre. C'est celui de 3 millions par an du budget municipal consacré à la résorption de l'habitat insalubre. Contre, par exemple, 20 millions pour la rénovation de la place de la Plaine, ou encore 56 millions pour faire le Palais de la Glace. Donc on voit bien, ces chiffres montrent bien la réelle volonté de grands projets un peu vitrines, censés attirer des investisseurs ou des classes plus aisées dans le centre-ville et à Marseille en général. Et avec des habitants modestes qu'on voudrait voir repousser toujours plus loin en périphérie. Et pour moi, la vraie veille dans les années qui viennent se situe là, c'est-à-dire être vraiment attentif, savoir où vont partir ces populations, en faisant bien sûr tout notre possible pour qu'elles soient relogées dans le centre-ville si elles le souhaitent, et puis être attentif au devenir du foncier dans le centre-ville qui est en train de se libérer en ce moment.
C'est-à-dire que vous craignez un effet d'opportunité pour des opérations immobilières suite à ce drame ?
Tout à fait. Et nous l'avons d'ailleurs déjà vu. Alors, il y a plusieurs stratégies par rapport à ça. C'est soit laisser se dégrader les immeubles et ensuite, une fois qu'ils ne valent plus rien, laisser des promoteurs acheter à bas coût ces immeubles, comme on a pu le voir par exemple autour du parc du 26e centenaire avec les immeubles, des petits immeubles du quartier du Rouet, par exemple. Et voilà.
D'accord. Samia Chabani, beaucoup de responsabilités partagées, mais du coup un peu un jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire que chacun se renvoie la responsabilité, c'est un petit peu la faute aux autres. Alors on a beaucoup entendu les pouvoirs locaux dire il y a des entraves, il y a beaucoup d'entraves de lourdeur administrative et c'est ça qui nous freine. On a vu l'État réagir, les ministres concernés disant mais faites appliquer les lois, faites votre travail. La région renvoie à la métropole, enfin là... Est-ce que c'est des réactions à la hauteur des enjeux et est-ce qu'il y a un blocage finalement à cause de cette multiplicité des responsabilités ? Quel est votre regard là-dessus ?
Non, évidemment, non, c'est une responsabilité partagée, comme ça a été très bien décrit. Il y a aussi une lecture qui est beaucoup plus cynique à avoir sur cette situation, c'est que certains quartiers sont considérés comme des no man's land en termes d'électorat. Et donc, c'est une lecture qu'il faut avoir, c'est une lecture... qui appelle aussi une responsabilité partagée de tous, des quartiers entiers qui sont considérés comme des quartiers à perte au niveau électoral. Ça, c'est un scandale. C'est un scandale. On entend tous les jours qu'aujourd'hui, il y a des territoires perdus de la République, il y a des cités où on ne peut plus rentrer, etc. Mais la faute à qui ? La faute à qui ? Moi, j'ai l'impression que les populations qui sont dans ces îlots d'insalubrité et de pauvreté, d'indigence, comme je le disais tout à l'heure, ou qui sont qui ont fait le deuil de toute forme de sécurité publique, c'est des personnes qui sont captives de ces situations de logement et de ces territoires. Et c'est là qu'elle se porte la responsabilité aujourd'hui, la responsabilité politique. Et là, tout le monde est responsable, absolument tout le monde. À tous les échelons, national, local, l'État, les collectivités territoriales. Et malheureusement, je crains que ce soit vraiment une lecture très clientélaire des populations électorales ou pas.
Alors, on a assisté à des démissions déjà, mais pas du côté forcément on l'attendait. Il y a deux élus qui ont démissionné, mais qui étaient aussi propriétaires de logements insalubres. Alors, ça cadre pas forcément avec l'image qu'on peut avoir du marchand de sommeil ou des propriétaires de logements insalubres ou indignes. Je les cite, hein, Xavier Cachard, pas n'importe qui, vice-président LR du conseil régional de PACA, proche de Renaud Muselier, qui était un des propriétaires et président du syndic, hein, je crois, de l'immeuble qui s'est effondré, un des deux.
Avocat du syndic de la copropriété. Paradoxal et presque cynique, que des élus à ce poste-là soit propriétaire d'immeubles dans ces états-là, des gens qui connaissent la question du logement, puisque cette personne, cet avocat, était le défenseur de Monsieur Muselier et de son épouse sur les affaires de Habitat Marseille-Provence, par exemple. Il avait également récupéré, puisqu'il n'y a plus de service habitat quasiment au conseil régional, et il a aussi récupéré le service sous la commission, le service des finances. Donc c'est assez fou, quoi. Faut être clair. On voit bien que la question du logement, c'est une question qui est une question d'exploitation sur le plan économique et social. Et des marchands de sommeil, c'est des fois, il y a tellement de gens derrière des SCI, derrière des choses, que l'appât du gain, c'est la première chose. Et finalement, loger les plus pauvres dans les pires conditions, c'est ce qui rapporte le plus. Et donc, il y a effectivement un véritable scandale. Je n'ai pas plus d'éléments sur la qualité de son logement directement, mais placé là, à côté d'ailleurs d'un immeuble de la ville, ça laisse supposer que les personnes gestionnaires de patrimoine auprès d'élus, de personnalités qui peuvent avoir de l'argent, leur proposent des opérations de spéculation foncière sur les plus pauvres. Et je considère que c'est lamentable. Mais pourquoi c'est possible ? C'est parce qu'il n'existe pas aujourd'hui de services publics du logement. C'est les services publics qui ont disparu. Le service public du logement, c'est de loger ceux qui ne pouvaient pas et ceux qui pourraient être vulnérables. Et c'est ça marque bien ce que c'est. Et donc, si on ne revient pas au fait de protéger les plus fragiles d'entre nous, les plus pauvres, ce qui n'est même plus tout à fait la fonction des organismes HLM, quand vous les voyez, ils vous disent « Ah non, ma fonction n'est pas de reloger les plus pauvres, c'est de reloger les travailleurs et le plus grand nombre. » Ce qui, dans l'histoire, a été la réalité. Mais les plus pauvres ne peuvent plus se reloger et ils font l'objet d'une exploitation insupportable. Juste pour dire, les services publics ont tellement disparu que l'organisation des secours, qui ont été remarquables, tout le monde le reconnaît bien. Mais aujourd'hui, répondre aux besoins sur l'urgence, nous avons une telle désorganisation, si peu de moyens mis en place, qu'on s'interroge aujourd'hui où sont les services publics et les moyens pour répondre le mieux possible à cette situation. Dernier point, dans une période où l'urgence sur le plan des catastrophes se multiplie, c'est pas moi, il y a les inondations sur l'Argence, ça n'arrête pas. Comment sait-il que nous soyons si peu organisés, que nous ayons aussi peu de moyens? Parce que chaque fois dans ces catastrophes, les premiers à payer le prix lourd, ce sont les plus fragiles, les plus vulnérables et en général les plus pauvres.
Je cite quand même, pour information, le deuxième élu donc, qui a démissionné, Bernard Jacquier, vice-président LR de la métropole Aix-Marseille-Provence, est toujours avec une délégation impactante, hein, puisqu'il est délégué à la commande publique et à la commission d'appel d'offres, donc propriétaire d'un logement insalubre à Marseille aussi, donc il y a... démissionné. Samia Chabani, vous vouliez réagir.
Oui, d'abord abonder dans ce sens de la prédation, même moi je parlerai de prédation par rapport à la question du logement des plus pauvres et de son exploitation. Et ce qui me préoccupe beaucoup précisément dans la loi Elan, c'est d'arriver à défendre l'idée qu'en privatisant des logements sociaux, notamment en privilégiant les habitants de ce parc social extrêmement dégradé, en leur confiant, donc, d'une manière, comme disait tout à l'heure Fatih, quand on achète un appartement, on appelle, ou c'était toi, excuse-moi, une partie de cet immeuble. C'est-à-dire qu'on part du principe que tout le monde peut être, d'une certaine manière, copropriétaire et bailleur. Ce serait le rêve pavillonnaire des années 70, quoi. Donc, en confiant à des personnes qui sont durablement vulnérables. Parce que ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'un habitant qui vit, un locataire qui vit dans un logement social, et souvent, il y meurt. C'est une statistique qui n'est pas inintéressante. Donc on part du principe que tout le monde va pouvoir participer aux charges de rénovation de ce parc social. Moi, je trouve que c'est mettre en danger les habitants du parc social, en plus en leur vendant un rêve qui est un cauchemar, en réalité. Puisqu'on sait très bien qu'ils n'auront probablement pas les moyens de participer à l'entretien de ces immeubles dégradés et qui sont déjà largement amortis au regard des loyers versés, que ce soit par les locataires ou par la CAF.
La Grande Tchatch, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
Carole Lenoble.
Oui, je voulais revenir, dire deux mots sur les élus ou les notables qui possèdent des logements insalubres dans le quartier de Noailles, notamment. Donc, en fait, je pense qu'il y a deux raisons à cela. La première, bah, évidemment, comme on l'a dit, c'est que... louer un logement à une population modeste et qui connaît parfois aussi mal ses droits, c'est rentable, surtout quand on a une mairie qui n'est pas très pressante pour obliger à faire les travaux. Et la seconde raison, bien sûr, c'est que à long terme, c'est très rentable aussi d'un point de vue de la spéculation, surtout que quand on est élu, j'imagine qu'on est bien informé sur les futurs travaux et grands projets qui ont lieu dans ce quartier. Et puis, si on regarde la situation de Noailles, par exemple, c'est évident que c'est un des quartiers à Marseille où il y a le plus de pression foncière en ce moment. C'est à deux pas du Vieux-Port. Voilà. Puis, on peut citer aussi l'hôtel des Feuillants, qui est donc au tout début de Noailles, à moitié sur la Canebière, qui a été acquis par la ville de Marseille il y a quelques années grâce à une déclaration d'utilité publique et qui devient aujourd'hui un hôtel 4 étoiles et qui est donc, je le rappelle, à 300 mètres des immeubles qui se sont effondrés.
Florent Audemont. Toujours
oui.
Sur le même thème.
Oui, sur le même thème, effectivement. Moi, j'entends, il faut rappeler, effectivement, qu'est-ce que c'est tous ces marchands de sommeil et ces propriétaires indélicats. On est une vaste zone grise. Franchement, j'ai envie de dire à vos auditeurs, en tout cas, moi, si demain, je vais acheter un bien, j'ai envie de dire comme un idiot, je vais aller m'endetter sur 25-30 ans auprès de ma banque. Alors que là, vous avez des gens qui achètent des biens et qui arrivent à faire la culbute en 3-4 ans. Parce qu'il faut voir à combien s'achètent aujourd'hui des logements... mais dans les copros les plus dégradés ou les immeubles les plus pourris du centre-ville et les revenus locatifs qui en sont tirés. Vous avez des gens qui font la culbute en 4, 5, 6 ans, se remboursent l'achat du bien. Mais rien qu'avec le rendement locatif, c'est invraisemblable. Et qui sont tous ces propriétaires indélicats ou ces marchands de sommeil? Il ne faut pas avoir l'image seulement de quelques marchands de sommeil dans des réseaux mafieux. Ça existe. Mais on a aussi, à un moment donné, il va falloir poser les choses sur la table, tout un tas de gens notables bien installés qui se retrouvent à multiplier ce genre d'investissement avec au moins la complicité passive des pouvoirs publics puisqu'ils ne mettent pas en face des politiques publiques de lutte contre l'habitat indigne à la hauteur. Et forcément, à un moment donné, on peut que comprendre la colère populaire dans ce contexte.
Il n'y a pas des mesures donc, pour exproprier ces propriétaires indélicats?
Je ne sais pas. Oui, des mesures, il en existe. Il existe même la possibilité de faire des travaux à leur place et de les faire payer. Ça s'appelle les travaux d'office. La ville avait ses dispositions, elle ne les a pas prises. Il y a très peu de villes qui le font. Mais Montreuil, par exemple, près de Paris, le fait systématiquement. Et un certain nombre de villes de la région, très peu nombreuses, font des travaux d'office lorsque le propriétaire est en défaut sur des travaux qui vont sur la sécurité ou la santé des personnes. Mais je voudrais revenir sur la question des marchands de sommeil et des propriétaires, bailleurs. La responsabilité en revient, excusez-moi de déplacer un peu le débat, à toute cette politique de remise en cause de la retraite. Rappelez-vous, dès les années 80, on a dit aux gens que bientôt les retraites ne seront plus ce qu'elles sont, les retraites par mutualisation. Donc il va falloir aller vers les retraites à capitalisation. Et donc du coup, on a poussé les Français à aller préparer leur retraite, en particulier les petits commerçants, les professions libérales, les petits artisans, et puis ensuite même les salariés s'y sont mis. Vous savez que la propriété de privée aujourd'hui de bailleurs, c'est 2 logements par bailleur. C'est pas 10 000, c'est 2. Ce qui explique que depuis ces années-là, où d'ailleurs on avait fait appel dans les années 80 aux propriétaires pour qu'ils, aux propriétaires institutionnels, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des grands propriétaires, comme les banques, comme AXA, les assurances, etc., qui avaient des grandes propriétés. Ils ont tout démantelé pour pouvoir remettre ça sur le marché. Et ensuite, une fois que c'était mis sur le marché, pour faire en sorte que les Français participent, préparent soi-disant leur retraite. Et donc du coup, on a des gens qui ne sont pas nécessairement en capacité d'entretenir les bâtiments. On a des gens qui, quelquefois, se retrouvent au chômage avant même d'arriver à la retraite et se retrouvent en difficulté pour pouvoir aussi entretenir les biens dont ils sont devenus propriétaires. Et cette logique a participé aussi au fait que nous avons une propriété privée de petits bailleurs qui n'est pas entretenue et qui ne peuvent pas participer. Et on retrouve ça notamment dans les grandes copropriétés dégradées. Et là, ce sont des bombes à retardement, même plus à retardement, parce qu'il faut voir ce qui se passe dans un certain nombre des cités marseillaises en copropriété. Les gens sont devenus insolvables, les propriétaires. C'est des faillites économiques, mais aussi des faillites sociales et matérielles. Et donc, on voit bien que là, il y a effectivement un problème sur la définition même de propriétaire-bailleur et sur les conditions pour le devenir. Je suis désolé, quand on loue une voiture aujourd'hui à quelqu'un, on ne peut pas louer n'importe quoi, sinon on va en prison. Quand on achète une voiture ou qu'on vend une voiture, on doit faire un contrôle technique. On demandait ça depuis des années, il y a des logiques. Tout ce qui peut porter atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes doit effectivement faire l'objet d'un contrôle obligatoire et une garantie de l'État dans le cadre de ce qu'on perd de plus en plus, la solidarité nationale.
Alors, et maintenant, Carole Nob, peut-être, sur que faut-il faire ? Comment... Quelle réaction ?
Pour prolonger ce que disait Fatih, les lois, elles existent, en fait. Il y a le permis de louer, qui est une loi, que les communes et les collectivités peuvent appliquer, si elle le souhaite, avec une volonté politique forte. Donc le permis de louer, peut-être que Florent...
Ça marche compléter. Comment, le permis de louer, en quelques mots, hein, sans dérentrer, trop technique.
En fait, c'est avant de louer un bien, la commune, pour un périmètre qu'elle a défini préalablement, décide de permettre au propriétaire de délivrer ce permis qui va lui permettre de louer son bien ou pas. En fonction de s'il est insalubre ou pas. Peut-être que Florent pourra compléter.
C'est exactement ça. Hein. C'est une mesure législative récente. J'ai un petit trou de mémoire entre la loi Allure et la loi Elan, mais il me semble que c'est la loi Allure. C'est Allure. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des communes ici qui le font. À ma connaissance, je sais que dans le Var, il y en a plusieurs. Je crois que Château-Renard, sur les Bouches-du-Rhône, l'a mis en place, mais je ne veux pas dire de bêtises. En tout cas, très clairement, le permis de louer assorti d'une sorte de vrai contrôle technique, hein, c'est ce que disait Fatih, c'est comme un contrôle technique avant l'autorisation de location, est un outil qui nous semble indispensable dans le contexte marseillais, au moins sur les zones ou les quartiers où on sait qu'il y a l'habitat indigne, dans les grandes copros dégradées, et où du coup il y a des marchands de sommeil, dans les grandes copros dégradées, à Noailles, sur tout le périmètre de l'OPA multisite, je suis désolé, mais c'est aujourd'hui c'est un dispositif qu'ont mis en place les collectivités qui ont isolé 5 îlots sur lesquels ils souhaitent travailler, enfin 5 quartiers où ils souhaitent travailler, peut-être aussi sur le périmètre des Crottes, enfin les quartiers La Belle de Mai, les quartiers on les connaît tous hein, à Marseille, et donc là effectivement le permis de louer c'est une des mesures, mais j'ai envie de dire c'est un détail. Enfin, c'est un détail important, mais il y a un catalogue de mesures aujourd'hui. L'arsenal, il est là. C'est ça qu'il faut rappeler. Il ne faut pas nous raconter d'histoire. De loi en loi, aujourd'hui, les dispositifs, ils sont en place. À mon avis, ils sont suffisants. Bon, il y a peut-être des choses à faire progresser, mais on ne peut pas se cacher derrière la lourdeur de procédure ou l'insuffisance d'outils pour expliquer qu'on n'a rien fait ou pas fait à la hauteur. Parce qu'aujourd'hui, tout l'arsenal, il est là, sauf qu'il n'est pas utilisé. Donc voilà, aujourd'hui, la loi, elle existe, elle n'est pas respectée. C'est comme la loi SRU. Moi, j'entends, vous parliez des quartiers oubliés de la République, enfin, sur lesquels on dit en dehors de la République. Mais oui, mais c'est parce que la loi, elle n'est pas appliquée par les décideurs mêmes. Donc voilà les conséquences. C'est qu'aujourd'hui, il faut faire appliquer la loi. Il faut commencer par la loi SRU. Parce que je rappelle qu'ici, on a quand même un nombre de communes carencées, alors en région, qui est une sorte de record en France, et sur le périmètre de la métropole. Donc, commençons par ça, l'ensemble des outils. Mobilisons l'établissement public foncier. Il a des réserves d'argent aujourd'hui pour intervenir, pour des raisons qu'on a parfois du mal à comprendre. Hein, on va imaginer des raisons peut-être politiciennes, voilà, ou électorales. En tout cas, aujourd'hui, il n'est pas mobilisé. Mobilisons-le. Faisons une vraie politique d'acquisition, réhabilitation, de production de logement social, là où les gens qui en ont besoin vivent. Moi, je suis d'accord, c'est à Noailles qu'il faut produire du logement social. C'est pas tout mettre sur les quartiers nord de Marseille. C'est la mixité, il faut commencer par faire... Les quartiers les moins mixtes, à Marseille, il faut le rappeler aussi, on parle de mixité sociale, les quartiers les moins mixtes, c'est le Roucas Blanc. Hein. C'est pas Noailles. Et à Noailles, il y a de la mixité. On l'a vu là avec les effondrements et les personnes qui sont faites. Faisons de la mixité à Aix-en-Provence, faisons de la mixité à Gemnos, faisons de la mixité à Allo, faisons de la mixité au Roucas Blanc. Et produisons du logement social et on va voir que, comme par magie, on va réussir à traiter les problématiques d'habitat indigne au fur et à mesure.
Faut casser les ghettos de riches.
Exactement.
Samia Chabani, oui. Les 4 députés marcheurs de Marseille ont fait un communiqué en disant bah, s'il y a un problème de compétence habitat dans cette ville, et pourquoi pas une mise sous tutelle de la ville si nécessaire, si la ville n'y arrive pas. L'État est interpellé en ce moment. Vous qui siégez alors, dans ce comité présidentiel des villes, est-ce que la question du logement, elle peut y être posée? Est-ce que vous allez le faire? Et l'État, donc, sa responsabilité, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui?
Oui, mais c'est une très bonne question. Le Conseil présidentiel des villes, c'est pas du tout un organe décisionnel. Hein,
vous c'est savez, consultatif. Hein,
c'est très consultatif. Ça part d'une volonté de ce gouvernement d'avoir des retours de terrain directs qui ne soient pas filtrés ni par des conseillers, ni par d'autres, donc de façon assez directe. Et je dois dire que de ce point de vue-là, Monsieur de Normandie, avec qui nous avons une réunion récemment, a eu un retour direct du constat qui est fait des Hauts-de-France jusqu'à Marseille.
Ministre du Logement.
C'est ça, qui est devenu ministre du Logement depuis. Et une interpellation sur la question de la loi Elan, hein, qu'on évoquait tout à l'heure. Donc il y a une vraie responsabilité aussi du gouvernement, clairement, sur ces questions. On ne peut pas circonscrire la question du logement, qui est une question quand même, je voudrais dire, très technique, pour lesquelles il faut effectivement, je pense, simplifier les normes. Pas pour construire n'importe comment, mais justement pour arriver à atteindre ce résultat d'une meilleure répartition de la production de logements sociaux. La question du rééquilibrage de la production de logements sociaux sur Marseille, pour parler que de Marseille, ça ne peut pas être le 13-14 et les 15-16, quoi. Hein, oui, historiquement, on sait qu'il y avait du foncier disponible sur ces territoires parce qu'on héritait de friches, de campagnes, etc. Aujourd'hui, la situation est différente. Il faut absolument imposer, contraindre une production beaucoup plus équitable de logements sociaux à l'échelle métropolitaine. Bien sûr, maintenant, c'est un enjeu métropolitain. Donc, juste pour finir sur le Conseil présidentiel des villes, clairement, la question du logement, pour moi, n'en fait pas partie. Voilà. Les groupes de travail qui sont constitués travaillent davantage sur la question de l'emploi et de la formation, la question de la lutte contre les discriminations et la question notamment de l'image des médias et des quartiers prioritaires et populaires. Donc on voit bien que cet organe consultatif qui s'articule avec le Conseil national des villes, qui continue de produire, lui, des rapports et qui en a produit un certain nombre sur la question du logement, n'a pas encore trouvé son identité et même, je dirais, sa légitimité.
Oui, non, juste, j'ai pas compris. Tu as dit simplifier les normes.
Oui.
Les normes de construction ?
Non, pas du tout, pas les normes de construction. Ah bon. Mais souvent, ce qu'on évoque dans la question comme frein à la production de logement social, c'est l'argument qui est donné, c'est qu'il y a des personnes qui font objection, en fait, au dépôt du permis de construire, à ce genre de choses.
C'est pas les normes, ça. Les normes, c'est les normes de construction qui, d'ailleurs, ont été remises en cause, puisque c'était le nombre de logements handicapés.
Oui.
Et donc, du coup, effectivement, là, c'est un scandale. Il vaut mieux avoir des logements qui présentent, qui soient accessibles à tout le monde. Et un jour, on va vieillir. Et un jour, on pourrait se retrouver handicapé. Il vaut mieux rester chez soi. Et c'est en ça que, pour ça que j'ai réagi. Je me doutais que c'est...
Alors,
que
peut-être une citation. Martine Vassal, présidente de la Métropole, qui va bientôt présenter un plan. Elle annonce un plan. Elle a été assez silencieuse jusqu'à présent. Mais là, elle annonce un plan d'action contre le logement indigne. Et sa première réaction, évidemment, sa compassion, etc., ça a été de dire, il faut adapter les textes, une adaptation des textes et des lois est nécessaire pour agir encore plus vite et encore plus fort sur les copropriétés dégradées. Il faut que nous arrivions à simplifier et à alléger les procédures pour réduire les délais. C'est à peu près la même argumentation que Jean-Claude Gaudin a mis en avant.
Le problème, c'est que c'est pas... On va s'expliquer là-dessus. Il faut faire très attention. Chaque fois qu'on veut simplifier les normes, il y a toujours du bon sens dedans. Sauf que là, quand on dit ça, on va flexibiliser un certain nombre de choses et on va perdre dans les qualités qu'on revendiquait. C'est comme quand on a remis en cause la loi de 48, je vais l'expliquer en deux minutes parce que c'est une loi à laquelle je tiens beaucoup, même si elle n'existe quasiment plus. La loi de 48, c'était à la sortie de la guerre, on a décidé de calculer le loyer de manière la plus scientifique possible parce que la valeur d'un logement, il ne fallait pas payer plus que ce qu'elle ne valait. Et donc on a fait un calcul scientifique très compliqué, avec des catégories. Si votre logement était pourri, c'était une catégorie 4, etc. Et donc, le propriétaire ne pouvait plus louer comme il voulait le loyer. Il fallait que le loyer corresponde exactement à ce prix-là. Effectivement, c'était des normes. Eh bien, je trouve que ces normes-là étaient bien. Parce qu'elles font en sorte que la valeur d'un bien essentiel pour les gens, eh bien, qu'on paye la valeur réelle de ce produit-là. Au jour d'aujourd'hui, quand on dit « Bah non, il faut faciliter les normes pour construire plus vite », sauf que si on construit plus vite sans la qualité, ça pose problème. Si on construit plus vite sans les garanties de sécurité pour ceux qui y vivent ou de ceux qui y travaillent, non. C'est pour ça qu'il faut être très attentif à ces questions-là. Après, que madame la présidente du conseil départemental se soucie, si c'est à ce titre-là qu'elle le fait.
C'était au niveau de la métropole. Là,
si c'est ça, mais comme elle est aussi...
Oui,
elle devrait quand même se soucier de la question du handicap, parce que ce texte qui fait que plus que 10% me pose problème. Ensuite, ces normes, il faut quand même être clair. Notre problème n'est pas un problème de normes. Il est un problème de volonté politique, problème d'orientation et de choix. Quand on réclame du service public ou plus de logements, c'est pas du tout ce qu'ont fait les gens qui ont demandé des normes. Aujourd'hui, tout à l'heure, Samia le disait très bien, c'est pas au moment où il nous manque du logement qu'il faut en vendre 40 000 au privé. C'est pas normal. Donc, clairement, c'est les choix politiques et les orientations. Si Madame Vassal veut des idées vers quel sens il faut y aller, ou que les gens qui se présentent aux prochaines élections municipales le souhaitent, préparer un vrai plan, y a un certain nombre de gens ici qui sont disposés à leur donner les orientations pour un changement de cap total de la politique pour qu'on tienne d'abord à loger ceux qui en ont besoin et non pas remplir les poches de ceux qui les ont déjà pleines.
Florent Demont, vous vouliez réagir.
Oui, non, mais j'entends, je serai très attentif. En tout cas, à la Fondation Abbé Pierre, on sera très attentif à tout ce que les pouvoirs publics et les responsables peuvent proposer dans les jours à venir. Moi, vraiment, c'est au-delà de l'émotion, là, parce que ce qu'on attend maintenant, c'est des vraies mesures. Il y a les problématiques des mesures d'urgence, on en parlera peut-être par rapport à la situation aujourd'hui des délogés, parce que je pense que même dans la réponse d'urgence, il y a des choses qui ne fonctionnent pas et qui peuvent être améliorées, mais là, on est surtout sur la réponse de long terme. Donc moi, je prends au mot Madame Vassal, mais j'attends des actes. Effectivement, et pas de s'abriter derrière des choses qui renverraient aux législateurs des outils à simplifier. Les outils, ils existent. Il y a peut-être des améliorations à faire, mais la vraie question, c'est des moyens et de l'ambition d'une vraie politique et qui mettent autour de la table l'ensemble des pouvoirs publics. Qu'on arrête ce jeu de ping-pong où chacun se renvoie la balle, que ce soit au niveau des services de l'État, de la métropole et du département dont on entend qu'ils seront peut-être bientôt fusionnés, et évidemment de la ville et de la région. Donc là, c'est un vrai tour de table avec des vraies questions. Il ne faut pas que chacun présente sa stratégie en ordre dispersé. Moi, je suis président de la métropole, je présente la stratégie métropolitaine. Moi, je suis ministre de l'Intérieur, je présente un audit de l'habitat indigne à Marseille, etc. Non, il y a un moment donné, il faut mettre tout le monde autour de la table avec des vraies solutions en face. Et effectivement, à la Fondation Abbé Pierre, ça fait des années qu'on propose et qu'on fait le constat de rapport du mal logement sur les difficultés et qu'on appelle à utiliser les outils existants et à avoir une politique à la bonne ambition, à la bonne hauteur.
Alors c'est assez mal parti parce que, alors prenons juste un exemple, Renaud Muselier, président de région, donc, qui appelle lui aussi un plan Marshall pour Marseille, qui dénonce les carences potentielles des acteurs locaux, donc une espèce d'autocritique parce qu'il a quand même été premier adjoint de la ville de Marseille pendant très longtemps et qui a démissionné Arlette Ructus, qui était sa présidente de la commission vie associative à la région, laquelle est toujours adjointe au logement en mairie de Marseille, et dit, c'est elle qui parle, que le président de région, dont Muselier, a été le premier à supprimer toutes les aides régionales en matière d'habitat que ses prédécesseurs avaient mis en œuvre, et lui demande de prendre ses responsabilités. Alors là, on assiste à un jeu comme ça, oui. Carole Leno, peut-être, au Centre pour Vivre pour tous, vous êtes habitué à un dialogue difficile avec les pouvoirs publics. Ce jeu comme ça de est-ce que vous pensez que vous avez en face de vous des gens prêts à prendre leurs responsabilités au plan local? Alors, on parlait aussi de la prise en charge de l'urgence, hein, de la réponse.
Oui, bah alors par rapport, je vais répondre d'abord par rapport à l'urgence et puis peut-être que je laisserai Florent ou Fatih ou Samia répondre pour le reste. Par rapport à l'urgence, on a vu, enfin c'est-à-dire que même dans cette temporalité-là, c'est-à-dire que on a vu encore une fois les mêmes défaillances, la même désorganisation qu'on a vu pour la prise en compte de cette urgence. Qui était la même que pour la prise en compte du logement sur du long terme, enfin toute cette politique de logement dont on parle depuis le début de l'émission. Donc une désorganisation totale des pouvoirs publics vraiment dépassée. Donc 2 semaines après le drame, on a vu donc hier enfin l'ouverture d'un guichet unique qui avait été demandé donc dans le communiqué de presse de 5 associations le 9 novembre. Donc ce guichet unique pour faciliter les démarches enfin mis en place, quelques propositions de relogement temporaire encore largement insatisfaisantes, la plupart des personnes étant encore logées à l'hôtel, certaines même juste pour quelques jours sans vision à long terme. Aucune vision sur la réalité des arrêtés de péril qui sont déposés. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent avec une injonction de partir de chez elles, mais en même temps qui n'ont pas de papier d'arrêté de péril, donc qui ne peuvent pas, qui ne savent pas quoi faire par rapport à leur loyer, par rapport à leurs assurances, etc. Très peu d'aide psychologique mise en place pour les évacuer, et encore moins pour les personnes du quartier, même qui sont restées chez elles, mais qui souffrent quand même de traumatismes. Les commerces aussi, les gens qui ne peuvent plus aller travailler, donc ça, cette question, elle n'a pas été prise vraiment en compte pour l'instant. Voilà. Et puis aussi une défaillance aussi sur l'aide et l'accompagnement juridique à long terme, mais qui doit se mettre en place dès maintenant, évidemment, parce que nous, ce qu'on redoute, en fait, par rapport à ça et par rapport au relogement et à l'éparpillement des gens dans les hôtels, c'est qu'après, c'est de perdre la trace aussi de ces personnes. Et donc, ce qu'on veut vraiment, c'est éviter l'éparpillement et mener des actions collectives pour la suite.
Est-ce que après le dilettantisme, cette multiplication des immeubles évacués, 142 1400 habitants, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'hystérie procédurière pour se protéger? Nous, on entend parler de gens qui se retrouvent comme ça, avec une porte fermée, sans solution, et pas forcément un péril imminent.
Oui, il y a effectivement une crainte des pouvoirs politiques et administratifs, et je dis administratifs à raison, de se surprotéger. de se surprotéger parce qu'il y a en germe dans l'affaire de la rue d'Aubagne une responsabilité pénale qui peut être effectivement lourde. Compte tenu de l'information préalable qui a été faite par des techniciens et par un certain nombre de gens. Donc, on a pris les aspects journalistiques, mais il y a aussi des expertises qui annoncent, hélas, le risque de drame et qui annoncent le drame. Donc là on voit bien qu'il y a globalement une véritable trouille. Et ce qu'ils n'ont jamais fait auparavant, ils le font aujourd'hui. C'est-à-dire au moindre risque, à la moindre suspicion, je cherchais le terme, il y a une décision qui est prise. Mais sauf que ces décisions ne sont pas suivies, comme l'a dit Carole, parce que, d'abord, leur administration n'est pas en capacité d'eux, parce qu'ils ne peuvent pas donner, en réalité, de documents disant « vous devez évacuer ». On est presque dans la voie de fait. On dit aux gens de sortir, mais on n'a pas le pouvoir à ce moment-là. C'est dans votre intérêt, on devrait dire, mais c'est même pas dit. Vous devez sortir. Là, je crois qu'il n'y a eu, pour les immeubles évacués à ce jour, aucun arrêté produit. Et donc les gens, maintenant, auraient des attestations... Mais peut-être d'évacuation, et certains, parce qu'ils ont été très vindicatifs, et je crois que là-dessus, il y a un véritable problème. Alors le problème va être le suivant, c'est qu'aujourd'hui, les relogements sont déjà nécessaires. On sait qu'un certain nombre de gens ne vont pas habiter là. Et le relogement, et il y a des propositions, sauf que les propositions sur le secteur... sont d'une soixantaine sur, je ne sais plus, on est à combien
1100.
Non, sur 200. Non, mais que pour Noailles. Que pour Noailles, on est à plus de 200 personnes à reloger. Donc on fait comment cette différence? Et on est bien devant une grande difficulté pour la ville et pour tout le monde à répondre. Et je pense que nous en avons pour 5 à 10 ans pour apporter même les réponses à ce qui vient de se passer, sans parler des reconstructions.
Alors parmi les revendications, l'émission va bientôt se terminer, du collectif du 5 novembre, il y a les réquisitions de logements vides, 67 000 à Marseille. Oui. C'est une des solutions, c'est le chiffre qui est avancé, alors peut-être il faut le valider.
Non, le problème de tous ces chiffres, c'est que c'est des chiffres qui sont issus d'un calcul fiscal. Puisque vous savez que c'est les logements qui n'ont pas payé de taxes. Donc c'est pas, tous ces logements ne sont pas bons à prendre. Mais la logique est effectivement de récupérer le maximum de logements. On a une capacité, l'État et la ville ont une capacité de réquisition. D'ailleurs, certaines réquisitions sont déjà demandées. Mais en même temps, ce que nous comptons demander, c'est des comptes. Puisque les premières manifestations étaient la manifestation du deuil, la deuxième c'était celle de la colère, et désormais ça va être que un travail autour de rendre des comptes de ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous avez à proposer.
Alors Florent Hondement, ce sera le mot de la fin.
Ouais, je suis désolé. En tout cas, par rapport à la situation des délogés, on est comme tout le monde très attentif à ce qui est proposé par les pouvoirs publics, mais on sera prêt à prendre le relais aussi. La Fondation Abbé Pierre, on soutient depuis des années des associations qui mènent des permanences d'accompagnement aux droits liés à l'habitat et qui peuvent répondre aux questions d'un certain nombre de personnes qui ont été délogées dans tout Marseille. Et on s'apprête là, je ne peux pas vous annoncer les modalités précises, mais à renforcer ses moyens dans les jours qui viennent. Donc là, j'espère qu'on aura aussi une réponse associative à proposer en complément des pouvoirs publics partout où ce sera nécessaire et surtout s'ils étaient défaillants. Je parle encore au conditionnel. J'espère qu'ils feront bien les choses. On sera surtout attentif aux réponses de long terme, mobiliser les outils existants, pas s'abriter derrière les difficultés, même si elles existent, hein, qu'ont les pouvoirs publics à les mettre en œuvre, mais avoir une vraie volonté ferme de production de logement social, de lutte contre l'habitat indigne avec tous les outils du coercitif et de vrais moyens incitatifs pour inciter les propriétaires et les copropriétaires à faire des travaux d'amélioration de leur logement. Ça, je pense que c'est vraiment ce qu'on attend des pouvoirs publics aujourd'hui.
Je vous remercie. Au mois prochain. Au revoir.